et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Jean-Louis Bourlange. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Modem et vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Piraterie d'État, c'est ainsi que les Européens qualifient le détournement par la Biélorussie d'un avion pour interpeller un opposant. L'Union européenne demande la libération du journaliste et appelle à des sanctions comme l'interdiction de survol de l'espace aérien de la Biélorussie. Les réponses sont-elles à la hauteur de la gravité des faits ?
Par définition, elles ne peuvent pas l'être. Parce que le Bélarus est un État souverain, on ne va pas lui faire la guerre, comme disait d'ailleurs le président Macron il y a quelque temps. On ne va pas lui faire la guerre, donc on est amené à prendre des sanctions. Elles sont fortes, fermes, immédiates. Elles sont, comme on dit, proportionnées, c'est-à-dire que c'est une affaire aéronautique, puisque on a pris en otage un avion, pris en otage les gens qui étaient dans cet avion. On a gardé deux personnes, deux opposants que la Biélorussie a incarcérés, apparemment torturés, dont elle a obtenu des aveux staliniens. Tout ceci est extrêmement grave. Mais
donc vous êtes en train de dire quand même que
assez
maigres.
Ce n'est pas une aventure aéronautique.
Oui.
Donc c'est très bien d'interdire la circulation, etc. Oui. Mais des sanctions, on a déjà commencé d'en prendre, parce que le camarade Loukachenko, il est bien connu de nos services depuis longtemps. Il a volé son
président biélorusse, pour préciser.
Il a volé son élection présidentielle à l'été 2020, et on a pris des sanctions. Moi, ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale tout à l'heure, en posant la question à M. Le Drian, j'ai dit qu'il fallait sans doute ne pas appliquer le principe de proportionnalité. Il fallait aller plus loin. Ce n'est pas un accident aéronautique, une aventure aéronautique. C'est quelque chose de très politique, de très grave. Je pense que si on veut prendre des sanctions qui ne pénalisent pas la population, qui en prend plein la figure, il faut, à mon avis, créer un véritable système de sanctions contre les dirigeants, mais au sens large du terme, les principaux dirigeants du pays, leurs familles, leurs avoirs, leurs mouvements. Je crois qu'il faut effectivement avoir quelque chose de plus ferme. Mais c'est difficile, mais je ne serais pas étonné qu'à l'avenir, dans les semaines qui viennent, on fasse des sanctions de cet ordre, parce que il y a vraiment une extrême, plus que d'irritation, une extrême colère de la part des dirigeants européens. Il faut voir, nous avons arrêté. Ils ont arrêté et torturé quelqu'un qui bénéficiait d'un asile politique donné par un État de l'Union européenne, qui voyageait à bord d'un avion d'une compagnie européenne sur une liaison intra-européenne, puisqu'il allait d'Athènes à Vilnius.
Mais Jean-Louis Bourlange, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir pourquoi la Biélorussie a pensé qu'elle pouvait s'autoriser ce coup de force.
Écoutez, la Biélorussie, je ne sais pas si la Biélorussie s'autorise ou pense, je pense qu'il y a quelqu'un en Biélorussie qui pense pour tout le monde et pense de travers, c'est le président Loukachenko. Moi, je vais vous dire une confidence, il n'est pas là pour confirmer, etc., et qui m'avait été racontée par un ministre de Chirac. Quand Loukachenko était venu à Paris du temps du président Chirac, et ce ministre avait
été rappeler que ça fait une trentaine d'années qu'il est au pouvoir.
Oui, oui, hein, et ce ministre avait été invité à... Chirac avait improvisé un déjeuner, c'est le cas, il avait fait venir un ami, et ils avaient déjeuné ensemble, assez, très peu nombreux, ils étaient trois, je crois, avec plus des interprètes. Et à la fin, Chirac raccompagne Loukachenko, et quand il se retourne, il dit à son ministre, à son ami, il dit, t'as vu ce type ? Il est complètement dingue. Chirac avait du jugement sur le plan personnel, on peut ne pas être d'accord avec sa politique, il avait quand même flairé derrière l'actuel dictateur de Bélarus, il avait flairé une personnalité assez étrange, assez anormal, complètement mégalomane, complètement égocentrique, quelqu'un de dangereux.
Oui, mais s'il avait été un intellectuel de centre-gauche, il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
Bah oui, enfin oui, c'est pas quand je dis
est-ce que vous croyez qu'il n'y a place en politique que pour les fous ou les intellectuels de centre-gauche? J'espère qu'il y a quand même une voie moyenne.
Alors, on soupçonne la Russie d'avoir laissé faire, ou au pire, d'avoir participé à donc cet atterrissage forcé. Le patron de la compagnie Ryanair laisse entendre qu'il y avait des personnes des services secrets russes dans cet avion. Ça voudrait dire que l'affaire serait encore plus grave qu'elle ne l'est aujourd'hui?
Rien de ce qui se fait en Bélarus aujourd'hui ne se fait sans la connaissance, la participation, la complicité des Russes.
Ouais.
Ça, c'est clair que le président Loukachenko ne se maintiendrait pas au pouvoir
si Poutine
n'avait pas mis sa main protectrice sur cet individu qu'il méprise par ailleurs.
Mais donc c'est un affront que nous fait non pas seulement la Biélorussie, mais la Russie, enfin, que fait à l'Europe.
Oui, écoutez, nous sommes, il faut bien voir la situation, l'Europe a à ses confins, une série de personnages, on va les qualifier soit de dictateurs, en tout cas de fanatiques de l'abus de pouvoir, qui sont quand même très inquiétants. Il y en a trois. Il y a le Loukachenko, il y a Poutine, il y a Erdogan. Ces gens sont en principe unis par rien, hein. L'intérêt de Poutine, ça serait de reprendre le contrôle de la Biélorussie. Historiquement, les Russes et les Turcs se sont toujours combattus, affrontés. C'est une constante historique. Et malgré tout, ils se réunissent. Et ils se réunissent sur quelles valeurs? Ils se réunissent sur l'aversion à l'Union européenne, sur l'aversion à nos valeurs, sur l'aversion à ce que nous représentons d'humanisme, de pluralisme, de liberté, de tout un ensemble de choses
Mais pas forcément pour les mêmes raisons.
Non, mais il y a quelque chose, il y a un ciment qui dépasse tout. Comme avec les Chinois d'ailleurs. Pourquoi voulez-vous que Poutine s'entende si bien avec le président Xi? Vous regardez la carte une demi-seconde, vous voyez que la Sibérie est un immense territoire gorgé de matières premières intéressantes et dépourvu de population. Comme le disait le président Xi récemment, « Oh, c'est très grand, la Sibérie. Moi, je me méfierais si j'étais Poutine, en entendant le président chinois dire ça. » Eh bien, malgré tout, il y a une solidarité parce qu'il déteste la démocratie, le pluralisme, les partis politiques, la liberté de la presse, la liberté de conscience, ce qui fait notre vie à nous.
Est-ce que c'est pour ça qu'il faut parler encore à Poutine au sein de l'Union européenne? Il y a ceux qui veulent discuter avec lui et les autres qui ne veulent pas. Mais justement, pour ne pas qu'il aille, qu'il se dirige encore une fois et plus loin vers dans la main chinoise, on va dire.
Écoutez, ça, c'est son problème, pas le nôtre. Il faut toujours parler de manière. Ça, moi, je crois que, de temps en temps, j'entends Hubert Védrine dire, mais il faut parler aux Russes, ceux qui sont contre les Russes, oublie qu'il faut parler aux Russes. Bien sûr, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut toujours parler aux gens, même si on est en profond désaccord et en profonde hostilité. Mais, là, en l'occurrence, notre offre, elle est très claire vis-à-vis des Russes depuis 20 ans. Nous avons toujours considéré que nous devions développer des échanges avec eux, que nous devions les aider à se développer, etc. Mais ils ne veulent pas de cela, parce qu'ils sentent qu'on va fiche dans leur pays, permettez-moi l'expression assez vulgaire, la vérole démocratique. Et que donc, il faut se protéger de ça, absolument. Et donc, ce qui les gêne, c'est le modèle que nous représentons. Ce qui les gêne en Ukraine, pourtant c'est une démocratie bien imparfaite que l'Ukraine, mais c'est qu'effectivement il y a trop de liberté, on voit bien à quel point ils ne supportent pas cette liberté les uns et les autres. Et nous, ce que nous devons faire, c'est effectivement essayer de continuer, nous proposons d'être beaucoup plus forts que nous ne sommes. Et ce que j'ai interpellé le ministre cet après-midi à l'Assemblée en lui disant, il faut réconcilier dans le projet européen la puissance et la paix. Il faut être fort et pas seulement juste. Il faut défendre nos intérêts et pas seulement nos valeurs.
Quand Emmanuel Macron dit l'Union européenne a besoin de recadrer très profondément sa relation avec la Russie, qu'entend-il par là?
Il faut lui demander Je crois que ce dont nous avons besoin, je suis d'accord avec ça, je crois que ce dont nous avons besoin, d'une façon générale, c'est de repenser le projet européen d'une façon beaucoup moins bisounours que naguère. Mais c'est en marche très lentement, parce que les Européens mettent beaucoup de temps. On a fait une grande révolution de la solidarité il y a un an. Hein, on a mis en branle, avec le plan Merkel-Macron, on a mis en branle quelque chose qui ressemble à la solidarité budgétaire et sociale à côté de d'une Europe des échanges et de la concurrence. Il faut faire la même sorte de révolution sur le plan de la politique étrangère et de sécurité. Il faut que nous acceptions des logiques de compétition, des logiques de montée en puissance de notre technologie, de nos armements, que nous soyons capables de nous mobiliser, etc. C'est une révolution importante. Je crois que la France porte ce projet. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on soit seul à le porter. Et on voit bien qu'on est assez en avance sur les autres et que nos partenaires sont un peu ce que le général de Gaulle appellerait des trottes menus. Des trottes menus. Et là, c'est embêtant. Les Allemands restent très, très prudents. On comprend, leur histoire est terrible. Ils sont...
Par leur pacifisme.
Oui, ce qu'on appelle le pacifisme rationnel, qui est souvent plus pacifiste que rationnel.
Il va y avoir une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine le 16 juin prochain à Genève. Est-ce qu'il y a quelque chose à en espérer?
Je sais pas. Je trouve que c'est pas trop mauvais. On verra ce qui se passe. On verra si des enquêtes sur l'affaire en cours recréent une tension. Je trouve que les Américains, je suis très très ferme vis-à-vis des Russes, mais que les Américains y ont été un peu forts. Notamment le président Biden, quand il a dit que M. Poutine était un tueur. Enfin, il ne l'a pas dit. Il a répondu à un journaliste qui disait qu'il était un tueur. Je pense qu'il n'est pas mauvais que les Américains et les Russes recommencent à se parler. Ça me paraît maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut baisser les bras? Non. Je crois que le grand avantage de Biden, c'est qu'il se réintéresse à l'Europe, il se réintéresse à la sécurité européenne, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça va plutôt conduire les Européens à se mobiliser eux-mêmes. Alors que si les Américains les laissaient complètement tomber, comme c'était un peu l'intention de Trump, là, ça aurait, à mon avis, conduit plutôt les Européens à se débander et à aller en ordre dispersé du côté de M. Poutine.
Un mot, Jean-Louis Blanche, d'un autre sujet brûlant, le conflit israélo-arabe. Compte tenu des récents événements, mais peut-être aussi de l'histoire de ces dernières décennies, est-ce que aujourd'hui, une solution à deux États, israéliens et palestiniens, pour vous, relève encore du possible?
Écoutez, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la possibilité et l'immédiateté et la possibilité. Je pense que au jour d'aujourd'hui, les deux États, c'est très très difficile. Pourquoi? Parce que Israël s'en est profondément éloigné ces dernières années. C'est un concept qui a été vidé de sa réalité, qu'ils ont d'ailleurs fait des accords d'Abraham pour éviter que le problème palestinien soit relayé par les États arabes. Et ils ont mené une politique de colonisation, une politique qui conduit à des tensions extrêmement fortes. D'autre part, les Palestiniens n'ont pas du tout la représentation, ni avec le Hamas, ni même avec le Fatah, qui permet de porter un projet de cet ordre. Donc le rêve, le vieux rêve d'Yitzhak Rabin, il n'est pas pour demain. Mais je crois que ça, dire cela, c'est dire la vérité. Mais en revanche, ce qui est très grave actuellement, et ce qui explique pour une part les nouvelles formes de conflit, je termine, c'est que ce projet est devenu impossible et qu'on a fermé toute espérance. Oui. Or, il n'y a pas d'autre possibilité pour une population d'à peu près 10 ou 12 millions de gens, de Palestiniens sous toutes leurs formes, que d'avoir soit un État à part, soit d'être intégré dans un État multiethnique, soit d'être soumis comme ils le sont actuellement. Donc il faut laisser la porte ouverte.
Jean-Louis Bolland, je voudrais dire un mot de politique française tout de même. Votre parti, le Modem, sans le Modem, le gouvernement n'a pas de majorité. Et on l'a vu il y a quelques jours lorsque votre parti a voté contre un article sur le pass sanitaire. Le texte a été corrigé, donc du coup vous avez voté. Mais est-ce que ça veut dire que parfois vous êtes obligé d'employer la menace pour vous faire entendre? Donc c'est un pouvoir... grandissant que vous avez.
Il y a deux choses. D'abord, il est normal que le gouvernement n'ait pas une majorité sans nous, puisque nous étions dans les éléments fondateurs de la majorité macronienne.
Oui,
hein, nous sommes des macroniens du premier tour, quant à nous.
Oui, mais donc, vous aviez toujours suivi le mouvement.
Oui, non, on avait toujours suivi le mouvement, on a fait des choses, etc. Mais comme il y a eu un certain effritement de la République en marche, effectivement, maintenant, l'équilibre est un peu plus... Vous êtes un peu plus favorable. C'est le premier point. Ça ne veut pas dire du tout que nous ayons un conflit particulier. Les relations ne sont pas plus tendues avec le gouvernement, entre nous et le gouvernement, qu'elles le sont avec...
J'ai entendu dire manque de dialogue et d'écoute.
Oui, alors, j'ai dit qu'elles n'étaient pas plus tendues qu'avec la REM. En revanche, il est certain que nous sommes dans une culture politique en France, et le macronisme n'a rien changé à cela, dans lequel le Parlement est considéré par le gouvernement comme quelque chose d'insignifiant ou de nuisible.
Mais certains élus La République En Marche le disent d'ailleurs eux-mêmes.
Oui, mais ça, c'est une structure depuis 58, depuis 62, on va dire, au moins, en France. La Ve République considère, ce sont des fonctionnaires qui considèrent que leur rôle est de protéger les Français contre les gens qu'ils ont élus.
Et vous en pensez quoi? Est-ce que le Parlement n'a pas de pouvoir?
Moi, je suis totalement... J'ai toujours été très attaché à une culture parlementaire. J'ai énormément aimé les institutions européennes, parce que, contrairement à ce qu'on disait, le Parlement européen avait un vrai pouvoir indépendant. Il était respecté par la Commission, respecté par le Conseil des ministres. On avait c'est un système à l'américaine, hein, de pluralité des pouvoirs qui négocient entre eux. Aucun pouvoir n'est vraiment soumis à l'autre. Et j'ai découvert ce que c'était que la Ve République dans sa version dure, c'est-à-dire le Parlement à la botte. Et ça, c'est quelque chose qui est grave. Et je pense que ce n'est pas l'intérêt du président de la République d'avoir un système pareil. Il faut qu'il ait un contre-pouvoir, des contreparties, s'il veut lui-même être protégé.
D'où la proportionnelle qui n'aura pas...
Dire, qui aurait pu être adouci, ce problème, par la proportionnelle.
Qui le sera d'ailleurs forcément dans la législature suivante, parce que je pense que Emmanuel Macron a des chances raisonnables d'être réélu. Je serais étonné que la majorité de demain ne soit pas plus composite et moins monolithique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais effectivement, ce dont nous étions porteurs au Modem, c'était l'idée d'un système équilibré assurant une meilleure représentation, parce que la majorité du
ne vous lancez pas dans un grand raisonnement.
Non, la majorité du Parlement, c'est un quart de la France. Ça va pas. Il faut que ce soit beaucoup plus représentatif, mais en même temps, il faut qu'il y ait un peu d'ordre, donc un peu de majorité, il faut un équilibre.
Merci.
Vous avez vu, le maître des horloges, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Frédéric Rivière.
Oui, ici.
Ici.
Juste ici.
Mais c'est très bien, il faut que chacun ait son pouvoir dans sa sphère.
Voilà. Exactement.
Merci Jean-Louis Bourlange, et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique. À très vite.
Appel sur l'actualité, prenez la parole.